Eschatologie et prophétie, une série d'émissions proposées par le Père François Dominique de la communauté des Capucins de Bastia.
Bonjour à vous tous, chers auditeurs. Nous sommes heureux de nous retrouver pour la suite de notre émission Eschatologie et prophétie. Nous sommes toujours dans l'étude de ces fins dernières, selon le livre du Père Philippe-Marie Margelidon, Père dominicain de la province de Toulouse, au chapitre 4, donc sur le purgatoire avant la vision bienheureuse. Nous avons vu donc dans nos dernières émissions, particulièrement la semaine dernière, la nécessité de cette purification de l'âme pour entrer dans la vision bienheureuse, dans la béatitude. Notons que ces réalités qu'on appelle les fins dernières du purgatoire, de l'enfer et du paradis, du ciel, se retrouve dans l'article 12 du Credo, « Je crois à la vie éternelle » selon le catéchisme de l'Église catholique. Mais la réalité du purgatoire et de l'enfer en particulier n'est pas professée directement, explicitement dans le Credo, mais elle est contenue dans cette 12e article qui est « Je crois à la vie éternelle ». Qu'est-ce que c'est que la vie éternelle ? Eh bien, c'est notre vie après la mort, tout simplement. Et cette vie après la mort, cette vie spirituelle, donc elle commence aussi pour nous déjà dès maintenant, bien sûr. La vie éternelle, c'est cette vie de communion avec Dieu, c'est cette vie spirituelle d'union à Dieu que nous vivons déjà dès maintenant. Mais quand nous parlons de vie éternelle au sens courant du terme, eh bien, nous regardons aussi la vie après la mort. Dans l'article 12 du Credo qui nous fait professer « Je crois à la vie éternelle », bien, nous trouvons aussi cette réalité que comporte la vie éternelle, le ciel, le purgatoire et l'enfer. Voyons aujourd'hui donc la nécessité de prier pour les âmes du purgatoire. Nous avons vu donc que l'âme, aussi une fois donc séparée du corps, ne peut plus mériter pour elle-même, comme on dit. Elle ne peut pas se purifier par elle-même. Elle est purifiée par la grâce de Dieu, une purification qui est déjà aussi un état dont on sait qu'on sera sauvé. Les âmes au purgatoire savent que elles seront sauvées, mais cette purification consiste en cette lumière qui n'est pas encore atteinte, en cette béatitude, ce bonheur promis encore, mais qui n'est pas encore atteint parce que il y a encore des obstacles de notre côté, bien sûr, pas du côté de Dieu, mais de notre côté. À la pleine communion avec le Seigneur. Alors, c'est pourquoi donc l'Église a retenu la nécessité de prier pour les défunts. Déjà dans l'Ancien Testament, notamment dans le livre des Maccabées, nous voyons aussi cette recommandation de prier pour les défunts et de rendre la sépulture. Et donc s'il y a une sépulture, ça veut dire qu'il y a un culte, donc on croit que bien sûr il y a une vie après la mort, et qu'il y a une certaine relation aussi, communion avec nos défunts. Et dans la Bible nous voyons aussi ces lieux marqués de sépulture qui sont des lieux de pèlerinage aussi, où nous sommes appelés à faire mémoire de ceux qui nous ont précédés. Donc l'Église, bien sûr, va expliciter cette prière pour les défunts comme nécessaire aussi à la sanctification des âmes, en particulier des âmes pour les défunts. Prier pour les âmes du purgatoire, comme on dit couramment, c'est d'abord croire que notre prière peut toucher les cœurs, même après la mort. Notre prière donc a une efficacité sur les défunts, sur l'âme du défunt, même après la mort. C'est croire également que le Seigneur prend soin aussi de nos défunts et qu'il offre sa miséricorde à ceux qui n'étaient pas complètement encore prêts à entrer dans le royaume de la gloire, dans la béatitude, mais qu'il aurait déjà promis. Nous avons un témoignage de cette prière pour les défunts. Comme je le disais donc dans le livre des Maccabées au chapitre 12, versets 43-46, lorsque Judas Maccabée organise une collecte pour faire célébrer un sacrifice afin de délivrer de leurs péchés les guerriers d'Israël tués lors de la bataille. Citation, c'était là une pensée religieuse et sainte. Voilà pourquoi il fit ce sacrifice d'expiation, afin que les morts soient délivrés de leurs péchés. Pour nous, chrétiens, nous croyons que notre prière peut aider les défunts dans ce temps de purification post-mortem. L'Église appelle donc cela, évidemment, le purgatoire. Et bien sûr, pour nous, hein, le grand sacrifice qui nous purifie, c'est le sacrifice eucharistique, c'est le sacrifice de la messe, hein, qui rappelle le sacrifice de la croix, hein, la passion, la mort de notre Seigneur Jésus. Et particulièrement dans l'Eucharistie, lorsque nous arrivons à la consécration du sang du Christ, hein, eh bien, il fait mention aussi, hein, de ce sang versé pour la rémission des péchés, non seulement pendant notre vie sur la terre, mais aussi les conséquences des péchés qui sont la peine du péché, qui est remis aussi par le sang du Christ, par cette purification que le Christ nous donne. Donc plonger les âmes de nos frères et sœurs défunts dans le sang du Christ, pour prendre l'image de l'Apocalypse, eh bien, c'est les laver aussi, hein, de leurs fautes, hein, et qui leur permet aussi, voilà, d'avancer vers cet état de béatitude. A priori, donc, les âmes en purgatoire, comme on l'a dit, ne peuvent plus rien pour elles-mêmes. En revanche, elles attendent les prières des saints et des bienheureux, ainsi que notre prière, à nous qui sommes encore en pèlerinage ici-bas. Nos prières et nos intercessions, si pauvres soient-elles, les aident beaucoup dans cette étape, comme l'attestent les témoignages aussi, par exemple, de sainte Thérèse d'Avila, de sainte Faustine, de saint Padre Pio, de Pietrelcina, etc. Et comme le souligne aussi le catéchisme de l'Église catholique au numéro 958, les âmes du purgatoire ne sont pas ingrates. Notre prière pour les défunts peut non seulement les aider, mais aussi rendre efficace leur intercession en notre faveur. Nous lisons donc dans le catéchisme de l'Église catholique ce numéro 958 sur la communion avec les défunts. La pensée de prier pour les morts afin qu'ils soient délivrés de leurs péchés est une pensée sainte et pieuse. Notre prière pour eux peut non seulement les aider, mais aussi rendre efficace leur intercession en notre faveur. Nous trouvons également dans une des homélies de saint Jean Chrysostome cette invitation à prier pour nos frères et sœurs défunts. Portons leur secours et faisons leur commémoration. Si les fils de Job ont été purifiés par le sacrifice de leur père, pourquoi douterions-nous que nos offrandes pour les morts leur apportent quelque consolation? N'hésitons pas à porter secours à ceux qui sont partis et à offrir nos prières pour eux. Comme je le disais, donc, la plus grande de toutes les prières que nous pouvons faire, évidemment, bien sûr, c'est la messe, hein, le sacrifice perpétuel de la messe, le sang versé du Christ qui nous lave de tous nos péchés. Et ce culte, hein, de la messe pour les défunts vient de la tradition monastique, en particulier des moines de Saint-Bernard de Clairvaux, hein, qui ont institué les premiers cet office des défunts, et fait célébrer donc l'Eucharistie pour les défunts. Puis ensuite, cette pratique s'est étendue petit à petit à toute l'Église, si bien que au lendemain de la fête de la Toussaint, comme nous le savons, il y a une journée spéciale de prière pour les défunts, avec la possibilité aussi de gagner les indulgences plénières, donc la purification totale de la peine pour les âmes des défunts, les âmes du purgatoire, et les âmes que nous avons connues, hein, ou bien nous pouvons l'offrir simplement dans cette journée, dans cette démarche spirituelle, donc de l'indulgence aussi, pour les adresser aussi aux âmes du purgatoire. Donc, soit pour une âme défunte, soit aussi pour soi-même. Donc, ce sacrifice de la messe, eh bien, est la plus belle des prières, puisqu'elle est l'offrande du sacrifice du Christ à son Père. C'est l'unique sacrifice de la croix qui sauve le monde et le renouvelle. À chaque messe, nous participons, comme membres du corps du Christ, à l'offrande de ce sacrifice inouï. Et celui-ci est offert pour les vivants et pour les morts. À Montlignon, par exemple, il y a un sanctuaire qui est dédié particulièrement à cette dévotion de la messe perpétuelle pour les défunts. Et voilà, vous pouvez, si ça vous intéresse aussi, aller voir sur le site de Montlignon, ce sanctuaire donc qui a été fondé et donc sur le culte pour la purification des défunts. Et donc, il y a aussi là-bas maintenant la communauté Saint-Martin et qui anime ce sanctuaire et qui propose aussi voilà, ce qu'on appelle les messes perpétuelles. Il y a d'autres lieux, même je crois aussi à Nice aussi, où il y a la tradition aussi de lieu de culte pour la messe perpétuelle pour les défunts. Donc, voilà, vous pouvez aussi déposer vos intentions de messe, mais bien sûr, pas besoin d'aller si loin, vous pouvez déposer tout simplement vos intentions de messe dans vos paroisses, à vos prêtres, à vos curés. Vous pouvez demander donc de faire célébrer des messes pour les personnes que vous avez connues, que vous avez aimées, les personnes de votre famille, etc. Et donc, la messe, comme je l'ai dit aussi, n'est pas uniquement réservée à la prière pour les défunts. Nous offrons le sacrifice de la messe pour les vivants et les morts. Donc aussi, pour nos intentions, pour toute intention, nous pouvons demander aussi une messe, des intentions personnelles, des actions de grâce. En tout cas, n'hésitons pas à avoir recours au sacrifice de la messe, parce que justement, c'est le lieu de la grande rencontre avec le Christ qui s'offre pour nous vivants, mais aussi et qui a aussi son efficacité pour la purification des âmes de nos défunts. À Montlignon, donc, la messe perpétuelle est ainsi offerte chaque jour pour les âmes du purgatoire et pour les personnes vivantes et défuntes. Alors, ceci dit, donc, la prière pour les défunts ne se limite pas uniquement à la célébration de la messe. Il y a aussi cette dévotion de prier pour les âmes du purgatoire. Nous pouvons offrir les prières communes qui sont Notre Père, le Je vous salue Marie, en particulier donc avec la prière du chapelet ou autre. Nous pouvons prier chez soi, dans une église, dehors ou bien même en voiture, dans nos déplacements, etc. Nous pouvons prier à tout moment. Là, dans le secret de mon cœur, je ne suis jamais seul. À travers la prière, donc, nous pouvons aussi vivre une certaine communion avec les défunts. Attention, je ne parle bien ici de communion et non pas de communication. La communication avec les âmes des défunts, ça touche le spiritisme, qui est contraire à la foi chrétienne, bien sûr. Le spiritisme est un moyen occulte d'entrer justement en communication, en contact soi-disant avec des défunts, mais pour tous ceux qui s'intéressent à l'étudier, les effets et les phénomènes donc, du spiritisme, nous voyons que, et à l'étude aussi des exorcistes, des prêtres exorcistes, nous voyons qu'en fond, tout ça est vraiment un piège, et que derrière la présence des défunts, en fait, le spiritisme fait appel aux esprits, d'où le nom de spiritisme d'ailleurs. Donc des esprits aussi, bien sûr des esprits malins, des esprits mauvais, bien sûr, qui passent par ces moyens pour aussi tisser des liens avec eux. Donc ça n'a en rien, bien sûr, la communication ou la communion avec nos défunts. L'Église nous dit que par la prière, par la dimension spirituelle de la prière et les liens de la charité qui demeurent aussi pour l'éternité, nous entrons dans une communion avec les défunts. Je vous lis par exemple un extrait du livre Histoire d'une âme de Thérèse de Lisieux. Elle se réfère ici donc à ces quatre petits anges qu'elle les appelle, hein, ces quatre enfants qui sont morts en bas âge avant sa naissance. Lorsque Marie entra au Carmel, j'étais encore bien scrupuleuse. Ne pouvant plus me confier à elle, je me tournais du côté des cieux. Ce fut aux quatre petits anges qui m'avaient précédé là-haut que je m'adressais, car je pensais que ces âmes innocentes, n'ayant jamais connu les troubles ni la crainte, devaient avoir pitié de leur pauvre petite sœur qui souffrait sur la terre. La réponse ne se fit pas attendre. Bientôt, la paix vint inonder mon âme de ses flots délicieux, et je compris que si j'étais aimé sur la terre, je l'étais aussi dans le ciel. Depuis ce moment, ma dévotion grandit pour mes petits frères et sœurs, et j'aime à m'entretenir souvent avec eux, à leur parler des tristesses de l'exil, de mon désir d'aller bientôt les rejoindre dans la patrie. Voilà, nous voyons donc ici Thérèse qui entre dans cette communion spirituelle, hein, aussi avec ses frères et sœurs, comme elle les appelle aussi, ceux qu'ils ont précédé de sa famille, mais aussi, bien sûr, elle va aussi prier pour l'âme des prêtres, prier pour les missionnaires, prier pour tous ceux et celles qui les ont précédés, qui sont déjà aussi dans la patrie, et particulièrement quand elle va traverser aussi la nuit de la foi, elle va aussi avoir recours à ceux qui sont déjà dans la communion plénière avec Dieu, à demander leur aide. Donc, voilà une juste relation, justement, communion, qui entre dans ce qu'on appelle la grande communion des saints. De même que nous prions les saints, nous pouvons aussi prier et nous tourner aussi vers ceux que nous avons aimés. Comme je l'ai dit, les liens de la charité demeurent au ciel. Ils ne sont pas détruits par la mort, bien au contraire. Ils sont purifiés et donc ils sont exempts même de toute tâche, de toute amertume, de tout ce qui pouvait empêcher ou entacher nos relations sur la terre. Donc, eh bien, ayons aussi cette sainte communion avec nos frères et sœurs défunts. Les prières d'intercession pour nos défunts, ce qu'on appelle les suffrages des chrétiens vivant sur la terre, contribuent à hâter l'avènement définitif du royaume pour l'Église souffrante, c'est-à-dire pour les âmes du purgatoire. Il y a une mutuelle dépendance des morts et des vivants dans cette communion des saints qu'est l'Église. Tous les fidèles unis dans l'amour du Christ forment un seul corps. C'est au point que les suffrages d'un membre du corps mystique se communiquent à tous les autres tant qu'ils sont encore dans les conditions d'un bénéficier, vivant sur la terre et mort au purgatoire. Quand nous prions et intercédons pour nos défunts, lorsque nous faisons célébrer la messe particulière, comme nous l'avons dit, les âmes du purgatoire, pour tel ou tel défunt, nous venons à leur aide, nous travaillons à l'avènement du royaume de Dieu en elles. Dante dit que nous aidons les âmes à devenir saintes, à se faire belles. L'intercession de toute l'action de l'Église pour les âmes du purgatoire concerne exclusivement la remise de la peine et non de la culpe du péché véniel qu'efface et supprime l'acte d'amour repentant. Les suffrages pour les défunts qui sont les mérites des actions intérieures ou extérieures qui précèdent de la charité surnaturelle et qui sont transmises par mode de suffrage aux âmes du purgatoire, les âmes dont la charité est plus grande en sont les premières bénéficiaires. Il y a les suffrages qui leur parviennent en vertu d'une intention expresse Elles reçoivent une remise partielle ou totale de la peine temporelle de leur péché, selon leur disposition et la qualité intensive du suffrage, plus que de l'œuvre accomplie à leur bénéfice. Ces suffrages peuvent être offerts d'une manière spéciale pour un ou plusieurs défunts. Nous pouvons prier pour les membres de notre famille, ceux que nous avons connus, nous pouvons prier pour un défunt, ou bien nous pouvons prier pour plusieurs, et dans ce cas-là, c'est ce que nous appelons la prière pour les âmes du purgatoire. Il n'y a donc pas de doute que de tels suffrages profitent davantage à ceux auxquels ils sont adressés. En conséquence, si l'on fait pour quelqu'un de nombreux suffrages, il sera délivré plus vite de la peine du purgatoire que d'autres pour qui on en fait point ou très peu, même si, de part et d'autre, les péchés étaient égaux. Dans tous les cas, l'application des suffrages à une âme déterminée se fait conformément à la miséricorde et à la justice de Dieu. Si une âme est hors d'état d'être secourue, ce qu'on appelle donc la damnation, si elle est en enfer ou déjà au ciel, les suffrages qui étaient destinés aideront d'autres âmes. Souvent, on pose aussi cette question, mais est-ce que mon défunt, pour qui j'ai tant prié, pour qui j'ai fait célébrer tant de messes, est-ce qu'il n'est pas déjà encore au ciel? Donc, et s'il est encore au ciel, pourquoi continuer à offrir la messe? C'est une question qui peut aussi peut-être nous habiter. Eh bien, n'ayons pas peur, j'allais dire, parce que nous ne pouvons pas, nous, par nous-mêmes aussi, savoir si une âme se trouve, voilà, à part pour les saints, bien sûr, parce que l'Église affirme qu'ils sont au ciel, c'est pour ça qu'ils sont saints, mais sinon nous ne pouvons pas savoir s'ils sont entrés déjà dans la béatitude, s'ils sont encore dans le purgatoire, ou bien si l'âme de cette personne a été damnée. Ça appartient à la justice de Dieu. Et de toute façon, toutes nos prières, qu'elles soient aussi adressées voilà, pour une âme qui est déjà dans la béatitude, eh bien, elle sera aussi, elle retournera aussi en bénéfice pour d'autres âmes. Donc, ça ne sera jamais perdu. On peut discerner alors trois moyens. La prière pour les âmes des défunts est utile par voie de supplication. Ce sont les suffrages par lesquels nous sollicitons la miséricorde de Dieu, afin de hâter leur purification pour que le règne du Christ advienne en eux. Deuxièmement, des œuvres, les œuvres de charité, par exemple, ou les œuvres de pénitence, un pèlerinage, un sacrifice particulier, une privation, une aumône, etc., que nous pouvons aussi offrir à Dieu en vue d'abréger, au moins partiellement, l'expiation que doivent accomplir les âmes du purgatoire. Troisièmement, le don de l'indulgence applicable aux âmes du purgatoire. Dans tous les cas, ce qui est acquis pour les vivants, en stricte justice, n'est transféré aux âmes du purgatoire que par voie de miséricorde, par mode de suffrage. Donc, nous supplions, en fait, mais c'est toujours la miséricorde de Dieu qui... Nous sommes toujours soumis à la miséricorde de Dieu. Ce n'est pas nous qui pouvons, par nous-mêmes, attribuer le ciel à une âme. C'est, encore une fois, ça appartient à la justice et à la miséricorde de Dieu. Précisons que la même action ou la même œuvre peut être efficace à plusieurs titres. Pour ne parler que du sacrifice eucharistique, qui applique et véhicule la valeur infinie de la rédemption à chaque moment du temps pour les fidèles et pour le monde entier, il est efficace à plusieurs titres. D'abord par voie de charité, car il unit l'Église terrestre à l'Église du purgatoire. Ensuite, par voie propitiatoire pour les vivants et pour les morts. Pour l'indulgence appliquée aux âmes du purgatoire, il faut rappeler que l'indulgence est la rémission de Dieu de la peine temporelle due au péché, dont la faute est déjà effacée. Rémission que le fidèle bien disposé obtient à certaines conditions déterminées par l'action de l'Église, laquelle, en tant que dispensatrice de la rédemption, distribue et applique par son autorité le trésor des satisfactions du Christ et des saints. Donc l'indulgence regarde justement un acte de miséricorde de l'Église en tant qu'elle a reçu le pouvoir de lier et de délier, le pouvoir que le Christ a donné à Pierre et à ses successeurs aussi, donc à l'Église. De plus, l'indulgence est partielle ou plénière, selon qu'elle libère partiellement ou totalement de la peine temporelle due au péché. Les indulgences peuvent être appliquées aux vivants, donc pour soi-même, ou aux défunts, en vertu de la communion des saints et du pouvoir des clés liées et déliées de l'Église, c'est-à-dire dans l'unité surnaturelle du corps mystique du Christ. L'Église est avec le Christ comme une seule personne mystique. C'est ce que dit aussi donc saint Thomas. En raison de cette communion mystique, il y a échange de communication, de dons de grâce, ce qu'on appelle réversibilité des mérites. Ainsi, la sainteté de l'un profite aux autres, bien au-delà du dommage que le péché de l'un a causé pour les autres. Le recours à la communion des saints permet aux pécheurs contrits d'être plus efficacement purifiés des peines du péché. Ces biens spirituels de la communion des saints sont le prix infini et inépuisable qu'ont auprès de Dieu les expiations et les mérites du Christ, notre Seigneur, offerts pour que l'humanité soit libérée du péché et parvienne à la communion avec Dieu. C'est dans le Christ, notre Rédempteur, que se trouvent en abondance les satisfactions et les mérites de sa rédemption. Appartiennent également à ce trésor le prix vraiment immense, incommensurable et toujours nouveau qu'ont auprès de Dieu les prières et les bonnes œuvres de la bienheureuse Vierge Marie et de tous les saints qui se sont sanctifiés par la grâce du Christ en marchant sur ses traces et ont accompli une œuvre agréable au Père, de sorte qu'en travaillant à leur propre salut, ils ont coopéré également au salut de leurs frères dans l'unité du corps mystique. La satisfaction compensatrice est puisée par l'Église, selon les modalités qu'elle détermine, dans le trésor des satisfactions surabondantes du Christ, de la Vierge et des saints. Puisque les fidèles en voie de purification sont aussi membres de la même communion des saints, nous pouvons alors les aider, entre autres en obtenant pour eux des indulgences, de sorte qu'ils soient acquittés des peines temporelles dues pour leurs péchés. L'indulgence, comme on l'a dit, est partielle ou plénière selon la détermination de l'Église. Elle remet la dette du péché pardonné, soit partiellement, soit totalement, et selon les dispositions requises, plus ou moins intenses, pour les âmes du purgatoire. Voilà, alors n'hésitons pas à avoir recours à cette sainte tradition de la prière pour les défunts. L'Église nous recommande plutôt de prier pour nos morts, et si elle admet ou permet cette pratique privée des fidèles, elle la confirme dans sa prière publique et liturgique. Les chrétiens qui sont sur la terre sont par état d'office les intercesseurs des âmes du purgatoire. Alors prions pour nos frères et sœurs défunts. Nous sommes dans un temps de grâce, donc prions pour eux, faisons abonder les sacrifices du Christ aussi pour eux, et ainsi bien contribuons à l'étendue aussi du royaume des cieux pour ces âmes aussi, qui sont en attente de jouir pleinement de la vision béatifique. À vous tous, chers auditeurs, alors une bonne continuation sur les ondes de votre radio chrétienne, et nous retrouverons la semaine prochaine pour notre émission Eschatologie et prophétie.
Eschatologie et prophétie, une série d'émissions proposées par le Père François Dominique de la communauté des Capucins de Bastia.